Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission animée et proposée par l'Astro Club du Marsan, Les Landes et du Ciel. Je m'appelle Yves DeAngeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek.
Oui, bonjour.
Michel Dauphin.
Bonjour à tous.
Et une petite nouvelle, Marine Abret.
Bonjour.
Nous avons exploré le système solaire lors des émissions précédentes. Nous avons visité les planètes telluriques et gazeuses. Mais toute la matière disponible lors de la création de notre système planétaire ne s'est pas condensée en planètes. Les composants restants ont formé des tout petits corps qui peuplent notre environnement.
Oui, effectivement, Yves, dans le système solaire, outre les planètes, il y a des comètes et des millions d'astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Ces corps orbitent principalement entre Mars et Jupiter, mais d'autres se situent au-delà de Neptune. Les plus gros d'entre eux ont parfois le rang de planète naine. L'ensemble de ces corps représente environ 0,015% de la masse totale du système solaire.
Et où se situent ces objets ?
Eh bien, je pense qu'ils se situent principalement dans les ceintures d'astéroïdes. Alors, on parle de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter, et de la ceinture de Kuiper qui se trouve au-delà de Neptune. Des milliards d'astéroïdes orbitent entre Mars et Jupiter, dont 1,7 million ont une taille supérieure à 1 km. Tous formés en même temps que le système solaire, ce sont les restes du disque d'accrétion de l'étoile Soleil. Au niveau de la ceinture principale, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'une planète Phaéton disloquée par les effets de résonance orbitale.
Mais du coup, Richard, comment ça agit ?
Alors, les résonances, eh bien, il y en a plusieurs dans la ceinture de ceinture principale. Et pour effet, elles accroissent les vitesses relatives des petits corps, ce qui les empêche de s'agglomérer. Donc, après réflexion, eh bien, on s'est dit que ce n'est pas une planète qui a été disloquée, mais c'est plutôt une planète qui n'a pas pu se former, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Les agglomérats que Jupiter empêche de se rassembler sont restés tels quels, sauf Cérès, qui a réussi à obtenir une forme sphérique. Elle est donc devenue une planète naine. Les astéroïdes ne sont pas serrés comme on pourrait le croire, mais avec des séparations bien marquées, même si des collisions, fréquentes à l'échelle astronomique bien sûr, surviennent encore. Jupiter a capté certains de ces astéroïdes. Ils se sont répartis en deux groupes sur la même orbite que Jupiter. Un groupe selon un angle de 60 degrés devant Jupiter et un groupe selon 60 degrés derrière Jupiter. On les appelle les Troyens. Ils sont ainsi sur des positions relativement stables vis-à-vis des influences croisées du Soleil et de Jupiter. Ce sont les points de Lagrange L4 et L5.
Alors, on pourrait se poser des questions, là, puisqu'elles orbitent sur des régions du ciel, comment ça se fait qu'elles tombent ? Concernant les astéroïdes, si on prend par exemple la ceinture principale entre Mars et Jupiter, dont on vient de parler, la distribution des astéroïdes répond aux lois de Kepler, qui leur fixe une orbite plutôt stable. Cependant, certaines régions vides d'astéroïdes sont clairement visibles. Elles sont dues à l'influence gravitationnelle de Jupiter, dont on vient de parler, et ce phénomène à l'origine de ces lacunes est appelé résonance. L'astéroïde, par contre, lui, subit l'attraction de Jupiter dans une direction privilégiée, ce qui tend plutôt à augmenter l'excentricité de son orbite. Plus l'orbite d'un astéroïde est elliptique, plus ses chances de percuter un autre astéroïde ou une planète augmentent. Les astéroïdes peuvent ainsi donc être poussés, déviés sur d'autres orbites ou déstabilisés par une collision. Elles changent de route et peuvent tomber et devenir ce qu'on appelle des météorites. Quant aux comètes, elles sont situées dans le nuage d'Oort, principalement, et circulent sur une orbite circulaire, et donc, en principe, n'approchent jamais le système solaire interne. Ils n'acquièrent leur statut de comète que lorsque leur orbite est modifiée par les forces de marée découlant des déplacements du système solaire lorsqu'ils traversent le plan galactique ou encore par un autre effet gravitationnel lorsqu'il rencontre un nuage moléculaire.
Nous allons commencer par les cailloux plus ou moins imposants que sont les astéroïdes.
Effectivement, plus ou moins importants comme tu le dis. Les astéroïdes sont des petits corps rocheux n'excédant pas quelques centaines de kilomètres. Cérès, de loin le plus grand d'entre eux, mesure 950 km de diamètre et a même acquis en 2006 le statut de planète naine. Les plus petits ne mesurent que quelques centimètres, et pour les fragments encore plus petits, on parle généralement de poussière. Ils présentent des intérêts un peu scientifiques du fait de leur petite taille. Effectivement, les astéroïdes sont des corps géologiquement morts, bien qu'ils aient subi des collisions depuis des milliards d'années. Leur composition est restée telle qu'au moment de leur formation, il y a 4,5 milliards d'années. Contrairement aux planètes, la vaste majorité des astéroïdes sont des corps primitifs, n'ayant subi que très peu d'évolution. Ces corps sont semblables aux briques, à partir de laquelle les planètes se sont formées par agglomération. Ainsi, l'étude de leur composition nous renseigne directement sur la composition originelle des planètes. La répartition des différentes compositions d'astéroïdes nous fournit également un aperçu historique du jeune système solaire. En effet, l'étude des exoplanètes, les planètes orbitant autour d'autres soleils, nous a appris que les planètes ne se situaient pas forcément sur l'orbite sur laquelle elles se sont formées. Il semble commun que les planètes migrent au début de leur histoire, due à l'interaction du disque au sein duquel elles grandissent. La répartition des orbites, taille et composition des astéroïdes, porte encore la marque de ces migrations. Le deuxième intérêt, c'est que certains astéroïdes sont toutefois enrichis en éléments lourds lors de leur formation planétaire. Les corps se sont agglomérés au sein du disque protoplanétaire, formant de nombreux embryons de planètes. D'une taille comparable à Cérès, autour de 1000 km de diamètre, comme en témoignent les météorites métalliques et métallopierreuses, nombre de ces corps se sont différenciés. C'est-à-dire que les matériaux les plus denses, comme les métaux, ont formé un noyau au centre de l'astéroïde, et les matériaux moins denses, comme les roches, ont surnagé, formant un manteau et une croûte. Ces protoplanètes ont ensuite été détruites, et le reste peuple la ceinture principale d'astéroïdes. Ainsi, ces fragments correspondent à ces noyaux métalliques pourraient contenir des milliards de tonnes par kilomètre cube de fer, de nickel et de cobalt. Ces quantités sont suffisantes pour satisfaire la consommation mondiale pendant des centaines d'années. Enfin, un troisième intérêt, peut-être un peu de science-fiction, à plus ou moins long terme, les astéroïdes peuvent constituer d'avantageuses bases spatiales pour la colonisation du système solaire. En effet, leur faible taille implique de faibles gravités et décoller d'un astéroïde nécessite donc bien moins d'énergie que de décoller d'une planète.
Bien, alors on va en arriver au type géologique donc, de ces astéroïdes. Il y a quatre catégories principales donc, de composition géologique. Donc, le type C, qui sont du carbone majoritaire et représentent 75% des astéroïdes visibles. Ensuite, il y a les types S, composés de silicates et de métaux, pas de carbone, donc ils ont été différenciés. Elles représentent 17% de la quantité. Les types M sont riches en métaux et en alliage principalement fer-nickel, qui sont les cœurs métalliques issus de la brisure des gros astéroïdes S. Et puis il reste les types V, basaltiques, composés de basalte ou d'olivine, très rares. Certains astéroïdes présentent un danger pour la Terre. On les appelle les géocroiseurs. Ce sont des astéroïdes qui ont été chassés de la ceinture principale et leur orbite peut croiser celle de la Terre, d'où un danger maximum en fonction de la taille de l'objet. En septembre 2019, on compte 21 000 de ces objets. Ils sont considérés comme dangereux s'ils passent à moins de 7 millions de kilomètres de la Terre et ont une dimension quelconque de 140 mètres. On les appelle les OPD, objets potentiellement dangereux, ou PHO en anglais, Potentially Hazardous Object. Deux grandes familles de ces objets, les géocroiseurs, famille Apollon, qui coupe l'orbite de la Terre, représentent 55% de ces objets. Et puis les autres, ce sont les géofrôleurs. Ils ne croisent pas l'orbite, mais ils viennent de trop près, ils taquinent très fortement. Ce sont les familles Amor, Athènes, Attira, et représentent 45% de ces objets. Alors des observatoires ont été mis en place pour détecter le plus loin possible et tenter de les dévier.
Donc c'est vrai que les impacts, quand malheureusement un astéroïde touche la Terre, bah des fois ça fait des gros gros dégâts. Il y a quelques impacts qui sont bien connus, qui sont par exemple le cratère de Chicxulub dans la presqu'île du Yucatan au Mexique. C'est un astéroïde qui, globalement, on estime qu'il faisait entre 10 et 80 km. C'est environ il y a 66 millions d'années. Et le diamètre du cratère qu'on retrouve encore actuellement, il fait 180 km. l'énergie qui a été libérée à ce moment-là, au moment de l'impact, c'est plusieurs milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Donc c'était vraiment une énergie très très puissante. C'est une des causes, c'est pas forcément la cause principale, mais c'est une des causes vraisemblables d'une des extinctions massives au niveau du Crétacé, qui a détruit à peu près 50% des espèces qui vivaient sur la Terre, incluant la disparition des dinosaures. Mais il y a eu d'autres impacts qui ont marqué un peu l'histoire. Par exemple, l'impact de la Tunguska en Sibérie, c'était en 1908, donc c'était encore la guerre froide, donc on n'a pas pu aller visiter ce qui se passait, hein, mais on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était au sud de l'Oural, il y avait des kilomètres et des kilomètres de forêt qui avaient été complètement soufflés comme un château de cartes. Et donc ce qu'on pense, d'après les mesures qu'on a faites, c'est que c'était un petit astéroïde d'une soixantaine de mètres de diamètre, une énergie qui a été développée au moment de son explosion, parce qu'il n'a pas impacté le sol, il a explosé à peu près à quelques kilomètres d'altitude, et l'onde de choc, elle a détruit sur un rayon de 20 km la totalité de la forêt, et les impacts ont été ressentis à plusieurs centaines de kilomètres. On a pu retrouver ça une fois que la guerre froide s'est arrêtée, on a pu envoyer des scientifiques, on n'a pas trouvé de traces au sol, mais on a trouvé dans les écorces, on a trouvé des mouvements qui étaient un petit peu bizarres et qui ressemblaient comme vraiment une explosion, on va dire, en altitude. À un moment, on a pensé que c'était un essai russe, un essai nucléaire russe qui avait mal tourné. Mais il s'avère qu'effectivement, c'était un bolide. Et il y en a un qui était très médiatisé, hein, c'est le super bolide de Tchelyabinsk, hein, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, où on voit toutes les vidéos, où on voit passer le bolide qui traverse le ciel en Russie, donc c'était au sud de l'Oural. C'était en 2013. Et ce bolide, il a pas touché le sol. On estime qu'il faisait entre 15 et 17 mètres de diamètre, une masse à peu près de 12 000 tonnes. Et il s'est fragmenté entre 20 et 40 km d'altitude. Donc l'énergie, là, c'était 30 fois la bombe d'Hiroshima. Donc on s'est retrouvé avec une onde de choc qui a été très, très puissante. Et cette onde de choc, elle a fait tomber des murs, envoler des toits, détruire des fenêtres. Il y a eu énormément de blessés, surtout par les éclats. Et on a retrouvé quand même quelques bouts en fait de ce bolide dans la région de l'Oural. On a retrouvé quelques morceaux. Alors on estime qu'en 2014, avec les satellites, on a pu faire de la cartographie du sol de la Terre. C'est-à-dire qu'on enlève l'eau de la Terre et puis on voit la forme un petit peu qu'il y a sur le globe terrestre. On estime qu'il y avait 140 cratères importants d'impact à la surface de la Terre. Le plus connu, c'est Meteor Crater, donc le cratère Barringer qui est aux États-Unis. Il est intéressant, lui, parce que c'est le cratère qui a permis vraiment de valider que c'était vraiment un impact d'un astéroïde, puisqu'on a retrouvé des morceaux au fond. Donc on savait vraiment que c'était un astéroïde qui était arrivé. Le diamètre, il fait à peu près 1,2 km, ce petit cratère. Il fait 190 mètres de profondeur, mais il y en a partout. On en a retrouvé en Inde, on en a retrouvé en Argentine, on en a retrouvé en Australie, etc. etc. Mais il n'y a pas que sur la Terre. C'est-à-dire que sur la Lune aussi, on estime que la Lune a été énormément bombardée. Sur la face, qui est la face cachée pour nous, hein, de la Lune, on estime qu'il y a environ 300 000 cratères de plus d'un kilomètre. On ne les voit pas sur la face visible, parce que la face visible, la Lune nous montrant tout le temps sa même face, s'il y avait un astéroïde qui devait passer pour percuter la face visible, il percuterait la Terre avant. Donc on n'a que les impacts qui sont derrière, donc il y a énormément de cratères. Et on a pu observer en live, en direct, les astronomes ont pu voir, c'était en 2013, le 11 septembre, il y avait des films qui avaient été faits sur la Lune, des photos de la Lune, et on a vu un impact en direct d'un petit astéroïde qui est venu percuter la Lune. Et on trouve aussi des impacts sur les autres planètes, comme Mars par exemple. On a les plus grands bassins d'impact. Par exemple, le bassin d'Argyr qui fait 600 km de diamètre, ou le bassin d'Hellas qui fait 2100 km. Donc difficile à voir maintenant, parce que Mars est comme la Terre, il y a un petit peu d'atmosphère, beaucoup moins que sur la Terre. Et donc il y a une érosion qui se fait, et on a pu le voir que quand on a fait une cartographie, comme on a fait exactement sur la Terre avec des satellites. Donc c'est intéressant ces astéroïdes, tu l'as dit, c'était vraiment important de voir la partie originelle en fait, de la création du système solaire. Et donc on a envoyé des sondes, on a fait poser des sondes, il y a des sondes qui ont orbité autour, qui les ont regardées. Mais deux missions ont été importantes. C'est la mission aussi OSIRIS-REx qui était sur Bennu, un astéroïde, et Hayabusa 2 sur Yogu, L'intérêt, c'était d'aller se poser sur l'astéroïde et de prélever des échantillons. Donc, sur Bennu, on a ramené 60 grammes de sol. Bon, c'est déjà pas mal. Sur Yugu, on a ramené 5,4 grammes. Mais la prouesse technique est importante, c'est-à-dire qu'on a pu se poser dessus, faire un prélèvement et renvoyer vers la Terre la capsule pour la récupérer et pouvoir l'analyser. Passons maintenant aux objets beaucoup plus visibles, même à l'œil nu, les comètes.
Alors, les comètes sont des corps qui se sont formés un peu comme les astéroïdes durant la phase de contraction du nuage interstellaire qui a formé un disque d'accrétion du système solaire et probablement dans les régions où étaient en train d'apparaître les planètes Uranus et Neptune, c'est-à-dire au-delà de la limite de glace. Par un processus d'accrétion similaire à celui qui est à l'origine des astéroïdes et des planètes. Ces petits corps ont presque immédiatement été éjectés par les géantes gazeuses et placés sur des orbites très elliptiques et parfois paraboliques, avec des inclinaisons très variables par rapport au plan de l'écliptique dans lequel circulent les planètes. Ces éjections ont été quand même violentes, provoquant de nombreuses collisions et conduisant à leur fragmentation, ce qui expliquerait la petite taille des noyaux des comètes. Au fil du temps, le passage d'étoiles au voisinage du système solaire aurait, par interaction gravitationnelle, circularisé l'orbite des comètes, et tout ce processus aurait donné sa forme actuelle au nuage d'Oort, principal réservoir des comètes, sphérique, placé aux confins du système solaire à plus de 20 000 unités astronomiques. Une unité astronomique, je rappelle, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. La limite externe du nuage de Oort, qui forme en fait la frontière gravitationnelle du système solaire, est quant à elle située à 100 000 unités astronomiques. Ces objets ont une composition très différente des astéroïdes. Ils sont situés aussi dans des parties très distinctes du système solaire, au-delà de la ligne des glaces, je le rappelle, et leur composition est restée telle qu'au moment de leur formation, il y a 4,5 milliards d'années. Ils sont un peu comme des boules de neige cosmiques sales. Elles sont en fait des roches, elles sont faites, pardon, en fait de roches et de poussière, de glace, d'eau, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane et d'ammoniac gelé, et tout comme les astéroïdes, elle devrait permettre de mieux comprendre la formation et l'évolution du système solaire, et peut-être aussi les origines lointaines de la vie. En effet, les observations effectuées à distance par spectroscopie et les mesures effectuées à proximité par plusieurs missions spatiales indiquent la proximité dans leur noyau d'acides aminés comme la glycine. Je dois mentionner enfin la récente découverte d'objets stellaires composés principalement de roches et de métaux, lesquels suivent une trajectoire imprévue dû à un potentiel dégagage, donc à la sublimation de matières volatiles que l'on retrouve sur les comètes, mais pas sur les astéroïdes. On sait encore un peu de choses sur ces objets. Ils sont peu lumineux, n'ont pas de chevelure comme les comètes, et cependant, on les appelle les comètes sombres.
Oui, alors pour classifier les comètes, on a mis au point ce qu'on appelle un code cométaire. Alors, c'est une désignation qui sera normalisée. On va mettre déjà une lettre majuscule pour le type de comète. Alors, il y a plusieurs types. C pour les comètes à longue période, P pour les courtes périodes, D pour les perdues ou détruites, X pour celles dont on n'a pas calculé l'orbite, et A pour celles qui ont été annoncées comètes par erreur. Donc, une lettre pour le type de comète, l'année de la découverte, une lettre majuscule pour la quinzaine du mois dans laquelle on a trouvé cette comète, un numéro d'ordre dans la quinzaine, s'il y en a plusieurs, le nom des découvreurs, trois maximum, suivi d'un numéro si plusieurs découvertes du même.
C'est quoi que tu appelles longue ou courte période? C'est quoi la différence?
Alors, la courte période, ce sont des comètes qui font leur orbite en moins de 200 ans. Et pour les longues périodes, c'est un temps qui est très très largement supérieur à 200 ans, qui va se mesurer en milliers d'années.
Ok.
Donc, pour exemple, on aura la comète C-1995-O1 Hale-Bopp. Pour les comètes confirmées, on va donner une appellation simplifiée. C'est-à-dire qu'au deuxième passage, par exemple, P-2001-J1-NEAT, NEAT c'est le laboratoire d'études, eh bien, elle va devenir 207P-NEAT. C'est-à-dire la 207e comète périodique confirmée et découverte par le programme NEAT.
Donc les comètes ont toujours fasciné l'être humain, puisque c'est des éléments du ciel. On connaissait le ciel qui était immuable, et là, le ciel, il y avait des éléments un peu particuliers qui venaient directement visiter, de temps en temps, les êtres humains. Donc pour remonter, les premières observations, c'est en Chine à peu près, au 10 siècles avant Jésus-Christ, on a commencé à avoir les premières informations. Et après, toutes ces croyances, elles se sont développées. Pour Aristote, par exemple, pour lui, le ciel est immuable, donc les comètes, c'était des effets atmosphériques. C'était pas des corps qui venaient de l'extérieur, c'était comme des nuages. Voilà, c'était vraiment des phénomènes atmosphériques. Mais jusqu'au 20e siècle, c'était, pour l'ensemble des civilisations, c'était des signes annonciateurs de problèmes, des signes de mauvais augure, à tel point que on a fait le lien entre la mort de certains grands hommes et l'apparition de comètes. Par exemple, la comète de 451 coïncide avec la mort d'Attila, celle de 1223 de Philippe Auguste, la comète de Halley, la mort d'Henri IV. Donc on a toujours essayé de trouver une explication. Pourquoi ça arrivait? On retrouve la comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux, par exemple, ben, qui était un présage pour la bataille d'Hastings en 1066.
Alors, on a donc les étoiles filantes. Alors, c'est un beau spectacle, mais ce ne sont pas des étoiles qui défilent pour notre plaisir. Ce sont des poussières qui entrent dans l'atmosphère. Elles proviennent de la queue de matière expulsée par une comète. Et si la Terre traverse cette queue de poussière, eh bien, les poussières rencontrent notre atmosphère à grande vitesse et se consument par incandescence. C'est un phénomène lumineux dans le frottement avec l'air. Ce phénomène est un météore.
Donc on peut parler de quelques comètes historiques. Il y en a une qui est très connue, c'est la comète de Halley. Donc comme je vous l'ai dit, cette comète-là a été mentionnée la première fois en 611 avant Jésus-Christ en Chine. Mais ce qui est intéressant avec cette comète de Halley, c'est l'événement qui s'est passé, donc c'était en 1910. C'était un retour de cette comète de Halley. Et la population a été paniquée. Pourquoi? Parce qu'un journaliste du Petit Parisien a interviewé Camille Flammarion, qui était un astronome renommé, au sujet de la possible destruction de la Terre par rapport à un objet qui venait du ciel. Donc Camille Flammarion a dit que potentiellement c'était possible. Et en embrayant sur cette comète qui risquait de passer, il a expliqué que si la queue de comète, si elle nous percutait, donc c'était grave comme un astéroïde, ça faisait des gros trous, mais que même simplement si on passait, la Terre passait dans la queue de la comète, ça pouvait être dangereux. Donc il expliquait par exemple que la combinaison de l'oxygène de l'atmosphère avec de l'hydrogène qui pourrait y avoir dans la queue de comète, ça pourrait nous étouffer. Que s'il y avait moins d'azote dans l'atmosphère, eh bien c'est comme si on se faisait un délire avec de l'hélium ou du gaz hilarant et qu'on allait mourir dans la joie, que s'il y avait de l'oxyde de carbone, trop d'oxyde de carbone, eh ben, on allait détruire nos poumons. Donc il expliquait que c'était potentiellement dangereux parce qu'on ne connaissait pas encore la composition exacte des queues de comètes. Mais il a aussi expliqué, le journaliste a arrêté son interview à ce moment-là, mais si on prend l'interview complète, il a aussi expliqué que dans tous les cas, il n'y avait pas de danger puisque l'atmosphère allait nous protéger. Donc le journaliste n'a pas mis cette phrase-là à la fin de l'interview. Et donc ça a été diffusé, ça a été outre-Atlantique. Dans le monde entier, on a diffusé cette information qu'on allait bientôt mourir à cause d'une queue de comète. Et donc tout est parti un petit peu en live. Toutes les idées farfelues sont passées. Il y a eu une crue de la Seine et on a dit que c'est de la faute de la comète, par exemple, la même année. C'est passé aux États-Unis, les Américains, ils ont acheté des masques à gaz, ils bouchaient les trous de serrure avec des papiers, ils allaient habiter dans les grottes, dans les puits. Donc chacun y allait de son petit délire. Il y a eu énormément de retours à la religion. Les gens ont pensé que Dieu allait les sauver. Donc il y avait des gens qui squattaient les églises, qui faisaient des prières tout le temps. Donc plein d'éléments comme ça qui sont où les gens se sont, on va dire, rapprochés de Dieu, de la vie. Hein. En 2012, on a eu pareil chez nous, et donc on ne va pas trop dire que c'était bizarre, hein, on a fait pareil chez nous. Par exemple, d'autres exemples, les Américains, on leur a vendu des pilules anti-comètes, donc fait avec du sucre et de la quinine. On leur vendait, il y a des malins qui en France vendaient des voyages pour aller sur la Lune, pour être tranquille. Voilà. Donc on a eu énormément d'éléments, et finalement, le 18 mai 2010, les gens se sont couchés. Le lendemain matin, ils sont réveillés et ils étaient toujours là. Donc tout allait bien, il ne s'est rien passé. Donc on a fait quelques explorations de comètes, on a quelques éléments de comètes. On a plusieurs missions qui sont passées, on a fait des missions qui ont observé la comète. On a fait des missions qui ont observé le noyau de la comète de Halley. Une mission intéressante, Stardust, elle a volé dans la queue d'une comète, elle a prélevé des échantillons et puis ça a permis de ramener sur Terre la poussière cométaire. Et Deep Impact, où on a envoyé un impacteur qui est venu percuter une comète. Et la dernière, Rosetta, où on a mis un petit atterrisseur qui s'appelle Philae, qui a pu faire des petits prélèvements et des petites images pour nous donner d'autres informations. Mais il y a plein de choses programmées, parce que les comètes nous inquiètent encore. Donc cette émission est terminée, et lors de la prochaine émission, nous présenterons les étoiles. Les étoiles, ces points lumineux qui éclairent nos nuits. Au cœur de chaque système planétaire, c'est une étoile qui a permis de créer les astres qui circulent, permis l'émergence de la vie, mais aussi apporter une stabilité des systèmes planétaires. Donc, retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM ou passez nous voir le mardi soir et le vendredi soir pour partager le ciel. Et bien sûr, retrouvez-nous sur notre page Facebook Astro Club du Marsan. Bons ciels à toutes et à tous. Merci. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.